Littérature Audio a le plaisir de vous présenter une comédie en trois actes de Carlo Goldoni, L'Hôtelière. Les personnages. Le chevalier de Ripafrata. Le marquis de Forlipopoli. Le comte d'Alba Fiorita. Mirandoline, hôtelière. Hortense, actrice. Déjanire, actrice. Fabrice, garçon de l'hôtellerie. Le domestique du chevalier. Le domestique. La scène se passe à Florence, dans l'hôtellerie de Mirandoline. Acte 1er. Scène 1ère. Celle d'hôtellerie. Le marquis, le comte.
Entre vous et moi, il y a quelques différences.
Dans cette hôtellerie, mon argent vaut autant que le vôtre.
Mais si l'hôtelière a des égards pour moi, elle me les doit bien plus qu'à vous.
Et pourquoi, s'il vous plaît?
Je suis, moi, le marquis de Forlipopoli.
Et je suis, moi, le comte d'Alba Fiorita.
Oui, comte d'Alba Fiorita, un titre acheté.
J'ai acheté le comté tandis que vous avez vendu votre marquisa.
Oh, voilà, c'est... Je suis qui je suis et l'on me doit le respect.
Et qui vous manque de respect? C'est vous qui, parlant avec trop de liberté...
Je suis dans cette hôtellerie parce que j'aime la patronne. Tout le monde le sait et tout le monde doit respecter une jeune fille qui me plaît.
Ah, elle est bien bonne. Vous voudriez m'empêcher d'aimer Mirandoline. Et pourquoi croyez-vous donc que je sois à Florence? Pourquoi croyez-vous que je demeure dans cette hôtellerie?
Fort bien, vous n'arriverez à rien.
J'échouerai, moi, et vous, vous réussirez.
C'est bien cela. Je suis qui je suis, et Mirandoline a besoin de ma protection.
Mirandoline a besoin d'argent, et non de protection.
De l'argent? Je n'en manque pas.
Moi, je dépense un sequin par jour, monsieur le marquis, et je lui fais continuellement des cadeaux.
Et moi, ce que je fais, je ne le dis pas.
Vous ne le dites pas, mais on le sait bien.
On ne sait pas tout.
Si fait, mon cher marquis, on le sait. Les domestiques le racontent. Vous dépensez 3 petits paoli par jour.
À propos de domestique, celui qui s'appelle Fabrice ne me plaît guère. Il me semble que sa patronne le regarde d'un très bon œil.
Elle veut peut-être l'épouser. Ce ne serait pas mal imaginé. Voilà 6 mois qu'elle a perdu son père. Une jeune fille seule, à la tête d'une hôtellerie, peut se trouver dans l'embarras. Pour mon compte, je lui ai promis 300 écus si elle se marie.
Je suis son protecteur, et si elle se marie, je ferai moi. Oh, je sais ce que je ferai.
Allons, agissons en bons amis de Mirandoline. Donnons-lui chacun 300 écus.
Ce que je le fais secrètement et je ne m'en vante pas. Je suis qui je suis. Hola, quelqu'un?
Ruiné, pauvre et orgueilleux.
Scène 2. Les mêmes, Fabrice.
Que désire monsieur?
Monsieur, qui t'a appris la politesse?
Oh, que monsieur veuille bien me pardonner.
Dites-moi, comment se porte la petite patronne?
Elle va bien, illustrissime seigneurie.
Est-elle levée?
Oui, illustrissime seigneurie.
Idiot!
Pourquoi illustrissime seigneurie?
Que signifie cette illustrissime seigneurie?
C'est le titre que j'ai donné également à cet autre gentilhomme.
Entre lui et moi, il y a quelques différences.
Vous entendez?
Fabrice, au comte.
Il est vrai, il y a une différence. Je m'en aperçois bien à la dépense.
Dis à la patronne de venir me trouver. J'ai à lui parler.
Oui, excellence. Je ne me suis pas trompé cette fois?
C'est très bien. Il y a 3 mois que tu le sais, mais tu es un impertinent.
Comme voudra son excellence.
Veux-tu voir la différence qu'il y a entre le marquis et moi?
Que voulez-vous dire?
Tiens, voilà un sequin pour toi, fais en sorte que le marquis t'en donne un autre.
Au comte.
Je remercie votre illustrissime seigneurie.
Au marquis.
Excellence.
Je ne jette pas mon argent par les fenêtres comme les fous. Allez, va-t'en.
Au comte.
Que le ciel bénisse votre illustrissime seigneurie. Excellence. Paneva, loin de son pays, ce n'est pas un titre de marquis qui vous fait estimer. C'est l'argent.
Il sort. Scène 3. Le marquis, le comte.
Vous croyez me donner le pion avec vos casseaux, mais vous n'arriverez à rien. Mon titre vaut mieux que tout votre argent.
Moi, je n'apprécie pas ce qui n'a qu'une valeur théorique. J'apprécie ce qui peut être dépensé.
Ruinez-vous donc si cela vous plaît. Mirandoli ne vous accorde aucune importance.
Croyez-vous qu'elle fasse cas de vous, malgré toute votre grande noblesse? C'est de l'argent qu'il faut.
De l'argent, mais c'est de l'influence qu'il faut. C'est pouvoir à l'occasion rendre un service.
Oui, être bon, par exemple, à prêter 100 pistoles en cas de besoin.
Et il faut se faire respecter.
Quand on a de l'argent, tout le monde vous respecte.
Vous ne savez pas ce que vous dites.
Je le sais mieux que vous.
Scène 4. Les mêmes, le chevalier, sortant de sa chambre.
Hé, mes amis, quel est ce bruit? Y a-t-il quelque sujet de discorde entre vous?
Nous discutions sur un sujet admirable.
Le comte discute avec moi sur le mérite de la noblesse.
Je ne nie point l'avantage d'être noble, mais je soutiens que, pour satisfaire ses fantaisies, il faut être riche.
Vraiment, mon cher marquis.
C'est bien, mais parlons d'autre chose.
Comment en êtes-vous venu à pareille discussion?
Pour le motif le plus ridicule du monde.
Oui, bravo. Le comte tourne tout en ridicule.
Monsieur le marquis aime notre hôtelière. Je l'aime encore plus que lui. Il prétend que Mirandoline doit l'aimer pour rendre hommage à sa haute naissance. Moi, j'espère obtenir son affection comme récompense de mes attentions pour elle. Ne vous semble-t-il pas que pareil sujet de discussion est ridicule?
Il faut savoir avec quel dévouement je la protège.
Il la protège, et moi, je dépense mon argent.
Vraiment, il n'est pas possible de discuter pour un motif aussi futile. Comment? Vous vous mettez en colère? Vous vous mettez la tête à l'envers pour une femme? Pour une femme? Que faut-il que j'entende? Pour une femme? Il n'y a pas de danger, certes, que j'aie une discussion au sujet des femmes. Jamais je ne les ai aimées, je ne les ai jamais estimées, et j'ai toujours cru que la femme était pour l'homme une infirmité insupportable.
Oh, ben, Mirandoline a un mérite extraordinaire.
Jusque-là, le marquis a raison. Notre petite patronne est vraiment aimable.
Puisque je l'aime, moi, vous pouvez croire qu'il y a en elle quelque chose de remarquable.
Je n'aurais pas dépensé plus de 1000 écus en quelques mois si je ne croyais pas qu'ils ont été bien employés.
Vraiment, vous me faites rire. Que diable peut-elle donc avoir de si extraordinaire que n'aient pas les autres femmes?
Elle a des manières distinguées qui enchantent.
Elle est belle, elle s'exprime bien, elle s'habille avec élégance, elle a un goût exquis.
Pouh! Tout cela ne vaut pas une pomme. Voilà 3 jours que je suis dans cette hôtellerie, et Mirandoline ne m'a fait aucune impression.
Regardez-la bien, et peut-être trouverez-vous en elle quelque chose de beau.
Quelle folie! Je l'ai très bien vue. C'est une femme comme les autres.
Elle n'est pas comme les autres, elle a quelque chose de plus. Moi, qui ai fréquenté les plus grandes dames, je n'ai jamais trouvé une qui sache comme elle unir la grâce à la dignité.
Corbleu, j'ai toujours fréquenté les femmes, je connais leurs défauts et leurs faiblesses. Eh bien, malgré mes patientes assiduités et toutes les dépenses que j'ai faites pour Mirandoline, je n'ai pas encore pu lui toucher le bout des doigts.
Ruse, ruse raffinée de sa part. Pauvre naïf, vous croyez donc aux femmes, vous autres? Elles ne m'en feraient pas à croire à moi. Les femmes, passez au large, toutes tant que vous êtes.
Vous n'avez jamais été amoureux?
Jamais, et ne le serai jamais. On a fait le diable pour me marier, mais je n'ai jamais voulu.
Ben vous restez cependant seul de votre famille. Vous ne voulez donc pas perpétuer votre nom?
J'y ai souvent pensé, mais quand je considère que pour avoir des enfants, il me faudrait supporter une femme, l'envie m'en passe aussitôt.
Et que ferez-vous de votre fortune?
Jouir du peu que j'ai avec mes amis.
Bravo, chevalier, bravo, nous en jouirons.
Et aux femmes, vous ne voulez rien leur donner?
Absolument rien. Sûrement, elles ne me ruineront pas.
Ah, voici la patronne, regardez-la. N'est-elle pas adorable?
Oh, la belle affaire. Pour moi, je lui préfère mille fois un bon chien de chasse.
Ben, si vous ne l'appréciez pas, je l'apprécie, moi.
Je vous l'abandonne. Fût-elle encore plus belle que Vénus?
Scène 5. Les mêmes. Mirandoline.
Je fais ma révérence à leur seigneurie. Quel est celui de vous qui me demande?
C'est moi qui vous demande, mais pas ici.
Où son excellence désire-t-elle que je me rende?
Dans ma chambre.
Dans la chambre de votre excellence? Si son excellence a besoin de quelque chose, le garçon viendra la servir.
Hein? Que dites-vous de cette réserve?
Ce que vous appelez réserve, moi je l'appellerais hardiesse, impertinence.
Ma chère Mirandoline, je vous parlerai en public, moi. Je ne vous donnerai pas l'ennui de venir dans ma chambre. Regardez ces boucles d'oreilles. Vous plaisent-elles?
Elles sont belles.
Ce sont des diamants, savez-vous?
Oh, je connais les diamants. Je m'y entends, moi aussi.
Ces boucles d'oreilles sont à votre disposition.
C'est comme si vous les jetiez dans la rue, mon cher ami.
Pourquoi votre seigneurie veut-elle me donner ces boucles d'oreilles?
Vraiment, le beau cadeau. Elle en a qui sont deux fois plus belles.
Mais celles-ci sont montées à la dernière mode. Je vous prie de les accepter pour me faire plaisir.
Quel fou!
Non, vraiment, monsieur le comte.
Si vous les refusez, vous me ferez de la peine.
Je ne sais que répondre. Il m'importe de conserver l'amitié de mes clients. Pour ne pas faire de la peine à monsieur le comte, je les accepte.
Oh, la friponne!
Que dites-vous de cette vivacité d'esprit?
Belle vivacité! Elle vous dépouille les gens et ne les remercie même pas.
Vraiment, monsieur le comte, vous vous êtes acquis un grand mérite. Faire un cadeau à une femme en public par vanité. Mirandoline, j'ai à vous parler en particulier, de vous à moi. Je suis gentilhomme.
Quelle ardeur, quelle audace! Si vos seigneuries n'ont plus rien d'autre à me commander, je vais me retirer.
Eh, la patronne! Le linge que vous m'avez donné ne me plaît pas. Si vous n'en avez pas de meilleur, je me pourvoirai.
Monsieur recevra satisfaction. Monsieur en aura de meilleur. Mais il me semble que monsieur pourrait le demander sur un ton plus aimable.
Quand on paye, les compliments sont inutiles.
Plaignez-le, il est ennemi juré des femmes.
Mais je n'ai pas besoin qu'elle me plaigne.
Pauvre femme, qu'ont-elles pu faire à monsieur? Pourquoi être si cruelle envers nous, monsieur le chevalier?
En voilà assez. Ne prenez pas de familiarité avec moi. Donnez-moi d'autres linges, je l'enverrai prendre par mon domestique. Chers amis, je suis votre serviteur.
Scène 6. Le marquis, le comte, Mirandoline.
Quel sauvage ! Je n'ai pas encore vu son pareil.
Chère Mirandoline, tout le monde ne connaît pas votre mérite.
Je suis tellement outré de sa grossièreté que je vais le renvoyer immédiatement.
C'est cela, s'il veut pas s'en aller, dites-le-moi, je le ferai filer sur le champ. Usez donc de ma protection.
Et quant à l'argent que vous pourrez perdre, j'y suppléerai, je paierai tout. Écoutez, renvoyez aussi le marquis, et je vous indemniserai encore pour cela.
Je remercie beaucoup ces messieurs. J'ai assez d'énergie pour dire à un étranger que je ne le veux pas chez moi. Et quant au profit, mon hôtellerie n'a jamais de chambre inoccupée.
Scène 7. Les mêmes, Fabrice.
Il y a là quelqu'un qui demande votre seigneurie.
Sais-tu qui c'est ?
Je crois que c'est un joaillier.
Mirandoline, prenez garde, ce n'est pas ici votre place.
Oui, je sais, il doit me montrer un bijou. Mirandoline, je veux donner un complément à ses boucles d'oreilles.
Mais non, monsieur le comte.
Que ne méritez-vous pas ? Moi, j'attache si peu de prix à l'argent. Je vais voir ce bijou. Adieu, Mirandoline. Monsieur le marquis, j'ai l'honneur de vous saluer.
Scène 8. Le marquis, Mirandoline.
Maudit comte, mais il m'assassine avec son argent.
Vraiment, monsieur le comte se donne trop de peine.
Ces gens-là ont 4 sous, ils les dépensent par vanité, par orgueil. Je les connais bien, oh, je connais le monde.
Le monde, je le connais aussi.
Y croit comme ça que l'on triomphe d'une femme comme vous avec des cadeaux.
Les cadeaux ne font pas de mal à la santé.
Mais je croirais vous faire injure si je cherchais à obtenir votre reconnaissance par des présents.
Oh, certes, monsieur le marquis ne m'a jamais fait pareille injure.
Et je ne vous en ferai jamais de cette sorte.
J'en suis absolument persuadé.
Mais là où j'ai de l'influence, je suis tout à votre disposition.
Il faudrait d'abord savoir de quel genre d'influence dispose votre excellence.
Oh, de toute espèce d'influence. Mettez-moi à l'épreuve.
Mais en quoi, par exemple ?
Par ma foi, vous avez un mérite surprenant.
Votre excellence est trop aimable.
Oh, j'étais sur le point de dire une bêtise. J'allais maudire mon titre de marquis.
Pourquoi ?
Oui, parfois, je souhaite d'être dans la condition du comte.
À cause de son argent, peut-être ?
Et quoi, son argent ? Mais l'argent, je n'en fais pas plus cas que de ceci. Si j'étais un simple comte comme lui...
Que ferait votre excellence ?
Par tous les diables, je vous épouserai.
Scène 9. Mirandoline seule.
Ouf ! Qu'ai-je entendu ? Son excellence, le marquis l'enflammé, m'épouserait. Et cependant, il y aurait une toute petite difficulté s'il voulait m'épouser. C'est moi qui ne voudrais pas. J'aime le rôti, mais je ne sais que faire de la fumée. Si j'avais épousé tous ceux qui disaient vouloir de moi, certes, je ne manquerais pas de mari. Tous les hommes qui arrivent dans cette hôtellerie tombent amoureux de moi. Tous me font les yeux doux. Et tous, tant qu'ils sont, me proposent de m'épouser sur le champ. Et ce chevalier, rustre comme un ours, me traitait avec tant de brusquerie. C'est le premier étranger descendu dans mon hôtellerie qui n'ait pas pris plaisir à causer avec moi. Je ne dis pas que tout le monde doive tomber amoureux de moi sans crier gare, mais me mépriser ainsi, voilà une chose qui m'échauffe terriblement la bile. Il est l'ennemi des femmes, il ne peut pas les voir. Pauvre fou, il n'a pas encore trouvé celle qui ait su s'y prendre. Mais il la trouvera, il la trouvera. Et qui sait s'il ne l'a pas déjà trouvée? Ce chevalier me pique au jeu. Ceux qui me courent après m'ennuient bien vite, bien vite. La noblesse n'est pas mon fait. La richesse, je l'estime et je ne l'estime pas. Tout mon bonheur consiste à me voir obéi, désiré, courtisé, adoré. Voilà mon faible et celui de presque toutes les femmes. Me marier, je n'y pense même pas. Je n'ai besoin de personne. Je vis honorablement et je jouis de ma liberté. Je cause avec tout le monde, mais je ne suis amoureuse de personne. Je veux me moquer de toutes ces caricatures d'amoureux pâmés. Je veux employer toute mon adresse à vaincre, à abattre et à broyer ces cœurs barbares et durs qui sont nos ennemis, à nous qui sommes la meilleure chose que Dame Nature ait jamais produite.
Scène 10. La même, Fabrice.
Hé, patronne !
Qu'y a-t-il ?
Cet étranger qui occupe la chambre du milieu n'est pas content du linge. Il dit que le linge est commun et qu'il n'en veut pas.
Je sais, il me l'a dit à moi aussi et je veux le satisfaire.
Fort bien, venez donc m'en donner d'autres pour que je puisse le lui apporter.
Non pas, non pas, je le lui remettrai moi-même.
Vous voulez le lui apporter ?
Oui, moi.
Il faut qu'il vous intéresse beaucoup, cet étranger.
Tous m'intéressent. Occupez-vous de vos affaires.
Je m'en aperçois bien. Je n'arriverai à rien. Elle me cajole, mais je n'arriverai à rien.
Pauvre sot, il a des prétentions. Je veux lui donner de l'espoir afin qu'il me serve avec fidélité.
D'habitude, c'est toujours moi qui sers les étrangers.
Vous êtes un peu trop rude avec eux.
Et vous, un peu trop aimable.
Je sais ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin de conseils.
Bien, bien. Cherchez alors un autre garçon.
Pourquoi, monsieur Fabrice ? Vous êtes fâché avec moi ?
Vous rappelez-vous ce que votre père nous a dit, à nous deux, avant de mourir ?
Certes, quand je voudrai me marier, je me souviendrai de ce qu'a dit mon père.
Mais moi, j'ai l'épiderme sensible. Il y a certaines choses que je ne peux pas souffrir.
Mais que crois-tu donc que je suis ? Une girouette ? Une écervelée ? Une coquette ? Vraiment, tu m'étonnes. Qu'ai-je à faire, moi, des étrangers qui vont et qui viennent? Si je les accueille bien, c'est par intérêt, pour maintenir le renom de mon hôtellerie. Des cadeaux, je n'en ai pas besoin. Pour me laisser faire la cour, un seul homme me suffit, et celui-là ne me manque pas. Et je sais qui me sert bien, et je sais ce qui me convient. Et quand je voudrais me marier, je me souviendrai de mon père. Et qui m'aura bien servi n'aura pas à se plaindre de moi. Je ne suis pas une ingrate. Je connais le mérite, mais on ne me connaît pas, moi. Mais c'est assez, Fabrice. Comprenez-moi, si vous pouvez.
Bien malin qui peut la comprendre. Tantôt, il semble qu'elle veuille de moi, tantôt qu'elle n'en veuille pas. Elle dit qu'elle n'est pas une écervelée, mais elle veut agir à sa guise. Je ne sais que penser. Nous verrons bien, elle me plaît, je l'aime, je joindrai avec plaisir mes intérêts aux siens, pour toute la vie. Ah, il faudra fermer un œil et laisser passer quelque chose. En fin de compte, les étrangers vont et viennent. Moi, je reste, je serai toujours le mieux partagé.
Scène 11. Le chevalier, un domestique.
On a remis cette lettre pour votre seigneurie.
Apporte-moi le chocolat.
Le chevalier ouvre la lettre et lit.
Sienne, 1er janvier 1753. Qui peut bien m'écrire ? Horace Tacani. Très cher ami, la tendre affection qui m'unit à vous me fait un devoir de vous informer qu'il est nécessaire que vous reveniez dans cette ville. Le comte Mana est mort. Oh, pauvre comte, je le regrette bien. Il laisse à sa fille unique, qui est en âge de se marier, un héritage de 150 000 écus. Ouf. Tous vos amis voudraient que cette fortune vous échue et font des démarches. Qu'ils ne se fatiguent pas pour moi, attendu que je ne veux rien savoir. Ils n'ignorent pas que je ne veux pas de femme dans mon existence. Et ce cher ami, qui le sait mieux que tout autre, m'ennuie plus que personne.
Là.
Que me font à moi 150 000 écus? Tant que je suis seul, je n'ai pas besoin de pareille somme. Et si j'étais marié, il m'en faudrait bien davantage. Moi, marié. Ah, plutôt attraper une bonne fièvre carte.
Scène 12. Le même, le marquis.
Mon ami, permettez-vous que je vienne passer un moment avec vous?
Très honoré.
Vous et moi, au moins, nous pouvons parler en confiance. Mais cet imbécile de comte n'est pas digne de se mêler à notre entretien.
Permettez, mon cher marquis, si vous voulez qu'on vous respecte, respectez donc les autres.
Vous connaissez mon caractère. Je suis aimable avec tout le monde, mais cet homme-là, je ne peux pas le souffrir.
Vous ne pouvez pas le souffrir parce qu'il est votre rival en amour. Ah, fi, un gentilhomme de votre qualité, tombé amoureux d'une hôtelière. Un homme sage comme vous l'êtes, courir après une femme.
Mon cher chevalier, elle m'a ensorcelé.
Folie, faiblesse que tout cela. Ensorcelé. Pourquoi les femmes ne m'ensorcellent-elles pas, moi? Leur sortilège, ce sont leurs grâces, leurs câlineries. Qui se tient éloigné d'elles, comme moi, ne court aucun risque d'en subir le charme.
Bon, assez sur ce sujet. Il me préoccupe sans me préoccuper. Ce qui m'ennuie et m'inquiète en ce moment, c'est mon fermier.
Il vous a fait quelques sottises?
Mais il m'a manqué de parole.
Scène 13. Les mêmes. Le domestique avec une tasse de chocolat.
Oh, j'en suis fâché. Apporte tout de suite une autre tasse de chocolat.
C'est qu'il n'y en a pas d'autre.
Il faut qu'on s'en procure. Si vous voulez bien accepter celle-ci.
Il prend le chocolat, commence à le boire sans façon, et continue ensuite à causer et à boire.
Si que je vous le disais, mon fermier.
Et moi je me passerai de chocolat.
M'avait promis de m'envoyer par le courrier 20 sequins.
Il va me porter un deuxième assaut.
Il me les a pas envoyés.
Il vous les enverra une autre fois.
C'est que...
Il achève de boire. Au domestique.
Bon, prenez.
Il lui prend la tasse.
C'est que je suis dans un grand embarras. Je ne sais comment y faire.
8 jours de plus, 8 jours de moins.
Non, mais vous qui êtes gentil homme, vous savez ce que veut dire tenir sa parole. Je suis dans l'embarras, morbleu. Je donnerai des coups de poing au ciel.
Je suis désolé de vous voir si ennuyé. Si je savais comment me tirer de là sans être impoli.
Pourriez-vous, sans vous gêner, me faire le plaisir pour 8 jours?
Mon cher marquis, si je le pouvais, ce serait de bon cœur. Si j'avais de l'argent, je vous en aurais offert tout de suite. Je n'en ai pas, mais j'en attends.
Vous ne me ferez pas croire que votre bourse est vide.
Voyez, voici toute ma fortune. Elle ne s'élève pas à 2 sequins.
Il lui montre un sequin et quelques pièces de monnaie.
C'est un sequin d'or ?
Oui, mon dernier, je n'en ai pas d'autre.
Apprêtez-le-moi, je verrai en attendant.
Et moi, alors?
Que craignez-vous? Je vous le rendrai.
Je ne sais que vous répondre. Prenez-le.
Il lui donne le sequin.
Quand j'ai une affaire urgente, cher ami, je vous serai très obligé. Nous nous verrons à dîner.
Il prend le sequin et sort. Scène 14. Le chevalier.
Bravo. Le marquis voulait me soutirer 20 sequins et finalement il s'est contenté d'un seul. Un sequin, en somme, peu m'importe de le perdre, et s'il ne me le rend pas, il ne viendra plus m'importuner. Je regrette bien davantage qu'il m'ait bu ma tasse de chocolat. Quelle indiscrétion, quel mauvais genre. Et puis, je suis qui je suis gentilhomme. Le très distingué gentilhomme.
Scène 15. Le même, Mirandoline avec du linge sur un bras.
Votre seigneurie me permet?
Que voulez-vous?
Voici du linge plus fin.
C'est bien.
Montrant un guéridon.
Mettez-le là-dessus.
Je supplie votre seigneurie de vouloir bien au moins voir si ce linge lui plaît.
En quoi est-il fait?
Les draps de lit sont en toile de linon.
Elle s'avance encore un peu.
En toile de linon?
Oui, votre seigneurie, à 10 pas au lilône. Regardez.
Je n'en demandais pas tant. Il me suffisait d'avoir quelque chose de mieux que ce que vous m'aviez donné.
Ce linge, je l'ai fait pour les personnes de qualité, pour les gens qui s'y connaissent. Et en vérité, je le donne à votre seigneurie parce que c'est elle. À un autre, je ne le donnerai pas.
À votre seigneurie parce que c'est elle. Le compliment d'usage.
Que votre seigneurie veuille bien regarder ce service de table.
Oh, ces toiles de Flandre perdent beaucoup au lavage. Il n'est pas utile de les salir pour moi.
Pour un gentilhomme de la qualité de votre seigneurie, je ne regarde pas à si peu de choses. J'ai encore quelques serviettes comme celle-ci et je les réserverai pour votre seigneurie.
Il est certain que c'est une femme obligeante.
Il a vraiment l'air d'un bourru à qui les femmes ne plaisent guère.
Donnez ce linge à mon domestique ou déposez-le ici, quelque part. Il n'est pas nécessaire que vous vous dérangiez pour cela.
Oh, ce n'est pas un dérangement pour moi que de servir un gentilhomme d'un si haut mérite.
C'est bien, je n'ai besoin de rien d'autre. Elle voudrait me prendre par la flatterie, oh, les femmes, toutes les mêmes.
Je vais mettre le linge dans l'alcôve.
Oui, où vous voudrez.
Ah, ce n'est pas commode. J'ai bien peur de n'arriver à rien.
Elle va déposer le linge.
Les imbéciles écoutent ces belles paroles, croient à la personne qui les dit et s'y laissent prendre.
Pour dîner, que désire votre seigneurie?
Je mangerai ce qu'il y aura.
Je voudrais pourtant connaître le goût de monsieur. Si une chose lui plaît mieux qu'une autre, qu'il veuille bien le dire.
Si je veux quelque chose de spécial, je le dirai au garçon.
Mais pour ces sortes de choses, les hommes n'ont ni l'attention, ni la patience que nous avons, nous autres femmes. Si monsieur préférait quelque bon petit ragoût, quelque bonne petite sauce, qu'il veuille bien me le dire à moi.
Je vous remercie, mais même par ce moyen, vous ne réussirez pas à faire de moi ce que vous avez fait du comte et du marquis.
Que dit monsieur de la naïveté de ces deux gentilshommes? On vient s'installer dans une hôtellerie, et puis on a la prétention de vouloir faire la cour à la patronne. Nous avons bien autre chose en tête que d'écouter pareilles sornettes. Nous cherchons notre intérêt, et si nous donnons de bonnes paroles, c'est pour garder les gens dans notre établissement. Quand je vois qu'ils se flattent d'un vain espoir, je ris comme une petite folle.
Bravo, j'aime votre sincérité.
Oh, la sincérité, c'est ma seule qualité.
Mais cependant, vous savez feindre avec ceux qui vous font la cour.
Moi, feindre? Que le ciel m'en préserve. Demandez un peu à ces deux messieurs qui se pâment d'amour pour moi si je leur ai jamais donné une marque d'affection, si j'ai jamais badiné avec eux de manière à ce qu'ils puissent avoir un motif de se monter la tête. Je ne les malmène pas, je ne les ai conduits pas, parce que mon intérêt s'y oppose. Mais peu s'en faut. Ces hommes efféminés, je ne peux pas les voir. De même que je déteste les femmes qui courent après les hommes. Savez-vous, je ne suis plus une enfant. J'ai un certain âge. Je ne suis pas jolie, mais j'ai eu cependant de bonnes occasions de me marier. Et pourtant, je n'ai jamais voulu le faire, parce que je tiens beaucoup à ma liberté.
Oui, certes, la liberté est un grand bien.
Et il y a tant de gens qui la perdent sottement.
Je sais bien ce que je fais, moi. Je fuis le danger.
Votre seigneurie est-elle mariée ?
Que le ciel m'en préserve ! Je ne veux pas de femme.
Très bien, très bien. Que monsieur reste toujours ainsi. Les femmes, savez-vous ? Mais c'est assez parlé. Ce n'est pas à moi d'en dire du mal.
Vous êtes d'ailleurs la première femme que j'entends parler ainsi.
Je vais dire à monsieur, nous autres hôtelières, nous voyons et nous entendons bien des choses. Et, en vérité, je ne donne pas tort aux hommes qui ont peur de notre sexe.
Quelle drôle de femme !
Avec la permission de votre seigneurie...
Vous êtes pressée ?
Je ne voudrais pas importuner monsieur.
Non, vous me faites plaisir, vous m'amusez.
Monsieur voit. C'est ainsi que je fais avec les autres. Je cause un moment, je suis plutôt gai, je dis des plaisanteries pour les amuser, et ils croient tout de suite. Monsieur me comprend, et ils me font les yeux doux.
Cela vient de ce que vous avez de belles manières.
Mirandoline faisant une révérence.
Votre seigneurie est trop bonne.
Et ils deviennent amoureux.
Quelle faiblesse, monsieur, tomber subitement amoureux d'une femme, ne pas savoir résister à deux petites grimaces.
Voilà ce que je n'ai jamais pu comprendre.
Quel caractère, quelle force d'âme.
Faiblesse, misères humaines.
Voilà qui est vraiment parler en homme. Que monsieur veuille bien me donner la main.
Pourquoi voulez-vous que je vous donne la main ?
Que monsieur veuille bien me faire cette faveur. Regardez, ma main est propre.
Voici la mienne.
C'est la première fois que j'ai l'honneur de tenir la main de quelqu'un qui pense véritablement en homme.
C'est bien, en voilà assez.
Et voilà, si j'avais pris la main à l'un de ces messieurs mal élevés, il aurait aussitôt cru que j'étais follement amoureuse de lui. Il serait tombé en pâmoison. Je ne leur accorderai pas la plus petite liberté pour tout l'or du monde. Ils ne savent pas vivre. Vive une conversation franche, sans piège, sans malice, sans toutes ces sottises ridicules. Que monsieur me pardonne mon impertinence, qu'il me commande sans se gêner en ce que je puis lui être agréable. Et j'aurai pour lui des attentions que je n'ai jamais eues pour personne au monde.
D'où vient cette si grande préférence pour moi ?
Parce que, sans parler du mérite de monsieur ni de sa situation, je suis sûr qu'avec lui, je peux causer en toute liberté, sans crainte qu'il ne veuille faire un mauvais usage de mes attentions, certaine qu'il ne voit en moi qu'une servante, convaincue qu'il ne me tourmentera pas par des prétentions ridicules, par des affectations grotesques.
Cette femme a quelque chose d'étrange que je ne puis comprendre.
Le sauvage s'apprivoisera peu à peu.
Allons, si vous avez à vous occuper de vos affaires, ne restez pas pour moi.
Oui, monsieur, je vais aller vaquer aux soins de ma maison. Voilà mes amours, mon passe-temps. Si monsieur désire quelque chose, j'enverrai le garçon.
Bien, si parfois vous veniez vous-même, je vous verrai volontiers.
Moi, vraiment, je ne vais jamais dans la chambre des étrangers. Mais chez monsieur, j'y viendrai quelquefois.
Pourquoi chez moi ?
Parce que monsieur me plaît énormément.
Je vous plais, moi ?
Monsieur me plaît parce qu'il n'est pas efféminé, parce qu'il n'est pas de ceux qui tombent amoureux sur le champ. Que je perde mon nom si avant demain, il n'est pas amoureux de moi.
Scène 16. Le chevalier.
Je sais bien ce que je fais, moi. Les femmes, passez au large. Mirandoline serait une de celles qui, plus que tout autre, pourrait me faire changer d'avis. Cette sincérité, cette franchise de langage, sont choses peu communes. Elle a un je ne sais quoi d'extraordinaire, mais je n'en tomberai pas amoureux pour cela. Pour m'amuser un peu, je m'arrêterai à celle-là plutôt qu'à une autre. Mais lui faire la cour, perdre ma liberté, il n'y a pas de danger. Fou, triple fou, celui qui devient amoureux d'une femme.
Scène 17. Une autre chambre de l'hôtellerie. Hortense, Déjanire, Fabrice.
Voici l'appartement de vos seigneuries. Voilà la chambre à coucher. Ici, c'est la salle à manger, le salon de réception, à votre choix.
Très bien, très bien. Êtes-vous le patron ou le garçon?
Le garçon, pour vous servir, votre seigneurie.
Il nous appelle, vos seigneuries.
Il faut favoriser la plaisanterie. Garçon.
Votre seigneurie.
Dites au patron que je l'attends. Je veux m'entendre avec lui sur le prix.
La patronne va venir. Je cours l'avertir.
Qui diable peuvent être ces deux dames toutes seules? À leur manière, à leur costume, on dirait des grandes dames.
Il nous appelle vos seigneuries. Il nous prend pour deux femmes du monde.
Il n'y a pas de mal. On ne nous traitera que mieux.
Mais on nous fera payer plus cher.
Pour le règlement du compte, on aura affaire à moi. Il y a très longtemps que je cours le monde.
Je ne voudrais pas que ce vos seigneuries nous entraînât dans quelque histoire désagréable.
Que vous êtes naïve, ma chère amie. Deux actrices, habituées à jouer sur la scène les rôles de comtesse, de marquise, de princesse, seraient embarrassées pour continuer leur personnage dans une hôtellerie.
Nos camarades vont arriver et nous serons aussitôt démaquillés.
Ils ne peuvent pas arriver à Florence aujourd'hui. De Pise, ici, en bateau, il faut au moins 3 jours.
Voyez un peu cette bêtise. Venir en bateau?
Faute de picaillons. C'est déjà beaucoup que nous ayons pu nous payer une voiture.
La représentation supplémentaire que nous avons donnée nous a servi.
C'est vrai, mais si je ne m'étais pas tenue à la porte, nous ne faisions rien.
Scène 19. Les mêmes, Fabrice.
La patronne sera ici dans un instant, aux ordres de ces dames.
C'est bien.
Et moi, je prie ces dames de me dire ce qu'elles désirent. J'ai servi d'autres dames, et je me ferai un honneur de servir leur seigneurie avec tout le soin possible.
Si c'est nécessaire, j'userai de vous.
Hortense joue très bien ces rôles-là.
En attendant, je prie ces illustres dames de vouloir bien me donner leurs honorables noms pour que je les inscrive.
Il tire de sa poche un encrier et un petit carnet.
Nous allons rire.
Pourquoi dois-je donner mon nom?
Nous autres hôteliers, nous sommes obligés de fournir les noms, prénoms, lieux de naissance et situations de tous les voyageurs qui descendent chez nous. Et si nous ne le faisons pas, gare à nous.
Mon ami, c'en est fini de nos titres.
Beaucoup de gens doivent donner un faux nom.
Quant à ça, ma foi, nous inscrivons le nom qu'on nous donne, et nous n'en demandons pas davantage.
Écrivez. Baronne Hortense del Poggio, de Palerme.
Une Sicilienne, tempérament ardent. Et votre seigneurie?
Moi? Je ne sais que répondre.
Allons, comtesse Déjanire, donnez votre nom.
Je vous en prie.
Vous n'avez donc pas entendu?
Sa très illustre seigneurie, la comtesse Déjanire. Quel est le nom de famille?
Il vous faut aussi le nom de famille?
Oui, Déjanire dal Sole, de Rome.
Cela suffit. Excusez le dérangement. La patronne va venir. Je le disais bien que c'était des femmes du monde. J'espère que je ferai de bonnes affaires. Les pourboires ne manqueront pas.
Je suis la très humble servante de Madame la Baronne.
Comtesse, je vous fais ma révérence.
Je bénis l'heureux hasard qui m'offre l'excellente occasion de vous exprimer mon profond respect.
De la source de votre cœur, il ne peut jaillir que des torrents de grâce.
Madame, vous me flattez.
Comtesse, mes éloges sont bien inférieurs à votre mérite.
Oh, que de cérémonies ces dames font entre elles.
Ah, que j'ai envie de rire.
Chut, voici la patronne.
Je fais ma révérence à ces dames.
Bonjour, jeune fille.
Madame la patronne, je vous salue.
Hortense fait signe à Déjanire d'être sérieuse.
Eh bien.
Madame permet que je lui baise la main.
Hortense lui donnant la main.
Vous êtes très aimable.
Déjanire se met à rire. Mirandoline demandant la main à Déjanire.
Que votre seigneurie me permette aussi de lui baiser la main.
Oh, ce n'est pas nécessaire.
Allons, agréez les politesses de cette jeune fille. Donnez-lui la main.
Je vous en prie.
Déjanire lui donne la main, se détourne et se met à rire.
La voici.
Madame rit, et de quoi?
Cette chère comtesse, c'est de moi qu'elle rit. Je dis une bêtise qui la fait rire.
Je parierais que ce ne sont pas des dames. Si c'était des femmes du monde, elles ne seraient pas seules.
Au sujet des prix, il convient de nous entendre.
Mais est-ce que ces dames sont seules? Elles n'ont ni cavalier, ni domestique? Elles n'ont personne?
Le baron, mon mari.
Pourquoi, madame, rit-elle?
Voyons, pourquoi riez-vous?
Je ris du baron, de votre mari.
Ah oui, c'est un joyeux cavalier. Il a toujours le mot pour rire. Il va venir tout à l'heure avec le comte Horace, le mari de la jeune comtesse.
Déjanire fait des efforts pour s'empêcher de rire.
Monsieur le comte fait aussi rire madame.
Voyons, voyons, comtesse, gardez un peu votre sérieux.
Mes chères dames, excusez-moi de grâce, nous sommes seuls, personne ne nous entend. Ce comte, ce baron, ne serait-il pas...
Que voulez-vous dire? Mettriez-vous en doute notre noblesse?
Que votre seigneurie veuille bien ne pas se fâcher, cela ferait rire madame la comtesse.
Allons, voyons, à quoi cela sert-il?
Hortense, menaçant Déjanire du doigt.
Comtesse, comtesse!
Je sais ce que voulait dire votre seigneurie.
Si vous l'avez deviné, je vous en fais mon compliment.
Votre seigneurie voulait dire, à quoi bon feindre d'être deux femmes du monde, puisque nous ne le sommes pas? C'est bien cela, n'est-ce pas?
Eh bien, oui. Vous nous avez parfaitement reconnus.
Quelle excellente comédienne! Elle n'est pas capable de soutenir un rôle.
Hors de la scène, je ne sais pas feindre.
Bravo, madame la baronne! Votre caractère me plaît. Je loue votre franchise.
Quelquefois, je m'amuse un peu.
Et moi, j'aime beaucoup les gens d'esprit. Usez donc de mon hôtellerie comme si vous étiez chez vous. Mais je vous prierai cependant, s'il m'arrive des personnes de qualité, de me céder cet appartement. Et je vous donnerai en échange des petites chambres très commodes.
Oui, bien volontiers.
Mais moi, quand je paie, j'entends être servie comme une dame. Je suis dans cet appartement et j'y reste.
Voyons, que madame la baronne ne se fâche pas. Oh, voici un gentilhomme qui loge dans mon hôtellerie. Quand il voit des femmes, il faut toujours qu'il se montre.
Est-il riche?
Je ne connais pas ses affaires.
Scène 21. Les mêmes, le marquis.
Est-il permis? Peut-on entrer?
À votre disposition.
Serviteur de ces dames.
Votre très humble servante.
Je salue monsieur respectueusement.
Ce sont des étrangères?
Oui, excellence. Ces dames ont bien voulu faire honneur à mon hôtellerie.
On l'appelle excellence. Diantre!
Hortense le veut déjà pour elle.
« Et qui sont ces dames ?»«
Madame la baronne Hortense del Poggio et madame la comtesse Déjanire dal Sole. »«
Oh, des personnes très distinguées, certes. »«
Et monsieur, qui est-il ?»«
Je suis le marquis de Forfipopoli. »
L'hôtelière veut continuer la plaisanterie.
« Je suis heureuse d'avoir l'honneur de faire la connaissance d'un gentilhomme aussi accompli. » »«
Oh, si je pouvais vous être utile en quelque chose, je suis à vos ordres. Je suis heureux que vous soyez descendu dans cette hôtellerie. Vous y aurez une patronne charmante.
Ce gentilhomme est plein de bonté. Il veut bien m'honorer de sa protection.
Oui, certainement, je la protège. Je protège aussi toutes les personnes qui descendent dans son hôtellerie. Mesdames, si vous avez besoin de quelque chose, je suis à votre disposition.
À l'occasion, je me prévaudrai de votre amabilité.
Vous aussi, madame la comtesse, comptez sur moi.
Je pourrais certes me dire heureuse si j'obtiens l'honneur insigne d'être comptée au nombre de vos très humbles servantes.
Elle lui a débité une belle phrase de comédie.
Le titre de comtesse l'a mise en veine.
Le marquis sort de sa poche un beau mouchoir de soie, le déplie et fait semblant de vouloir s'essuyer le front.
Quel superbe mouchoir, monsieur le marquis!
Qu'en dites-vous? Il est joli, n'est-ce pas? Ai-je assez bon goût, moi?
Certainement. Monsieur le marquis a un goût parfait.
En avez-vous vu beaucoup d'aussi beau?
Il est magnifique. Je n'ai pas vu le pareil. S'il me le donnait, je l'accepterais volontiers.
Et ce foulard vient de Londres.
Il est joli. Il me plaît beaucoup.
J'ai bon goût, n'est-ce pas?
Mais il ne dit pas. Voulez-vous l'accepter?
Je prétends que le comte ne sait pas dispenser son argent. Il le jette par la fenêtre. Mais il n'achète jamais un cadeau de bon goût.
Tandis que monsieur le marquis connaît, distingue, comprend, voit et compétent.
Le marquis, pliant le mouchoir avec beaucoup de soin.
Il faut le plier avec précaution pour qu'il ne s'abîme pas. Ce genre d'article a besoin d'être conservé avec précaution.
Il présente le mouchoir à Mirandoline.
Tenez, Mirandoline.
Monsieur désire que je le fasse mettre dans sa chambre?
Non, mettez-le dans la vôtre.
Pourquoi dans la mienne?
Parce que je vous le donne.
Que votre excellence veuille bien m'excuser.
Non, c'est aussi, je vous fais ce cadeau.
Mais je ne veux pas.
Oh, ne me faites pas mettre en colère.
Oh, quant à cela, monsieur le marquis le sait bien, je ne veux faire de la peine à personne. Pour que monsieur le marquis ne se mette pas en colère, je le prendrai.
Oh, quelle plaisanterie!
Et on blague les actrices.
Eh bien, qu'en dites-vous? Donnez un pareil mouchoir à la patronne de mon hôtellerie.
Monsieur le marquis est généreux.
Bon, je suis toujours ainsi.
C'est le premier cadeau qu'il m'ait encore fait. Et je me demande comment il a pu se procurer ce mouchoir.
Monsieur le marquis, trouve-t-on des mouchoirs pareils à Florence? J'ai envie d'en avoir un.
Bon, le pareil, ce sera difficile, mais nous verrons.
Bravo, petite comtesse.
Monsieur le marquis, vous qui connaissez bien la ville, faites-moi le plaisir de m'envoyer un bon cordonnier. J'ai besoin de chaussures.
Avec plaisir, je vous enverrai le mien.
L'intérêt seul les guide, mais elles ignorent qu'il n'a pas le sou.
Ce cher marquis voudra bien nous faire le plaisir de s'occuper un peu de nous.
Et de dîner avec nous?
Oui, très volontiers. Allons, Mirandoline, ne soyez pas jalouse. Je suis tout à vous, vous le savez bien.
Ne vous gênez pas, j'aime à vous voir vous divertir.
Vous nous tiendrez compagnie.
Nous ne connaissons ici personne en dehors de vous.
Mes chères aimables dames, je suis votre tout dévoué serviteur.
Scène 22. Les mêmes, le comte.
Je vous cherchais, Mirandoline.
J'étais ici avec ces dames.
Et des dames, je les salue humblement.
Votre dévouée servante. Ce gentilhomme est plus cossu que l'autre.
Je ne suis pas bonne à plumer les gens, moi.
Mirandoline, montrez le mouchoir au comte.
Mirandoline, tirant le mouchoir de sa poche et le montrant au comte.
Que monsieur le comte veuille bien admirer le beau cadeau que m'a fait monsieur le marquis.
J'en suis ravi. Bravo, monsieur le marquis.
Ce n'est rien, une simple bagatelle. Voyons, remettez-le dans votre poche. Je ne veux pas que vous en parliez. Ce que je fais, on ne doit pas le savoir.
Il ne faut pas qu'on sache. et il me fait montrer le mouchoir. Son orgueil est en lutte avec sa pauvreté.
Avec la permission de ces dames, je voudrais vous dire un mot.
Faites comme chez vous.
En gardant ce mouchoir dans la poche, vous l'abîmerez.
Je vais le mettre dans du coton pour qu'il ne se salisse pas.
Regardez ce petit bijou en diamant.
Il est fort beau.
C'est le complément des boucles d'oreilles que je vous ai donné.
Hortense et Déjanire regardent ce qui se passe et parlent bas entre elles.
Certainement, c'est le complément des boucles d'oreilles, mais c'est encore plus beau.
Que le diable emporte ce maudit comte, ses diamants et son argent.
Et pour que vous ayez la parure complète, je vous offre ce bijou.
Je n'en veux pas, absolument.
Vous ne me ferez pas cette impolitesse.
Oh, des impolitesses, je n'en fais jamais. Donc, pour ne pas vous fâcher, je l'accepte.
Hortense et Déjanire continuent à parler bas entre elles, tout en remarquant la générosité du comte.
Qu'en dites-vous, monsieur le marquis? Ce bijou n'est-il pas de bon goût?
Dans son genre, le mouchoir est de bien meilleur goût.
Certainement, mais d'un genre à l'autre, il y a une jolie distance.
La belle affaire, se vanter en public d'une grosse dépense.
Oui, nous le savons, vous faites vos cadeaux en secret.
Je puis bien dire en vérité, cette fois, qu'entre les deux plaideurs, c'est le troisième personnage qui jouit.
Donc, mes chères aimables dames, je dîne avec vous.
Et monsieur, qui est-il?
Je suis le comte d'Alba Fiorita, pour vous servir.
Hortense ne s'occupe plus du marquis et s'approche du comte.
Diantre, c'est une famille illustre. J'en ai entendu parler.
Elle aussi s'approche du comte.
Tout à votre service.
Monsieur loge ici?
Oui, madame.
Monsieur restera longtemps?
Je crois que oui.
Chère dame, vous devez être fatiguée d'être debout. Voulez-vous que je vous accompagne dans votre chambre?
Merci, mille fois merci. De quel pays est monsieur le comte?
Je suis napolitain.
Oh, nous sommes à moitié compatriotes. Je suis de Palerme.
Moi, je suis de Rome. Mais j'ai vécu à Naples, et justement, pour une affaire qui m'intéresse, je désirais parler avec un gentilhomme napolitain.
À votre service, madame. Vous êtes seule? Vous n'avez pas de cavalier?
Si, monsieur. Ces dames sont avec moi. Elles n'ont pas besoin de vous.
Nous sommes seuls, monsieur le comte. Plus tard, nous vous dirons pourquoi.
Mirandoline.
Monsieur?
Faites mettre 3 couverts dans ma chambre.
À Hortense et Déjanire.
Daignerez-vous me faire l'honneur?
Nous acceptons votre aimable invitation.
Mais je suis déjà invité par ces dames.
Elles sont libres de faire comme elles voudront, mais à ma petite table, on ne peut pas être plus de 3.
Oh, je voudrais bien voir encore celle-là.
En route, monsieur le comte. Monsieur le marquis nous fera la faveur de sa compagnie une autre fois.
Si monsieur le marquis trouve le mouchoir, je me recommande à lui.
Comte, comte, vous me le paierez.
De quoi vous plaignez-vous?
Je suis qui je suis et on n'agit pas de la sorte. C'est bien. L'une de ces dames veut un mouchoir. Un mouchoir de cette espèce. Elle ne l'aura pas. Mirandoline, ayez bien soin du vôtre. Des diamants, on en trouve, mais les mouchoirs de cette qualité, on n'en trouve pas.
Il est complètement fou.
Chère Mirandoline, êtes-vous fâchée que je m'occupe de ces deux dames?
Pas du tout, monsieur le comte.
Ce que j'en fais, c'est pour vous. Je le fais dans votre intérêt, pour augmenter vos bénéfices et le nombre de vos clients. Par ailleurs, je vous appartiens. Mon cœur est à vous. Ma fortune est à votre disposition. Usez-en librement, comme si elle vous appartenait.
Scène 23. Mirandoline seule.
Avec toutes ses richesses, avec tous ses cadeaux, il n'arrivera jamais à se faire aimer de moi. Et encore bien moins le marquis, avec sa protection ridicule. S'il fallait m'attacher à l'un des deux, ce serait certainement à celui qui fait le plus de dépenses. Mais je ne me soucie ni de l'un ni de l'autre. Je m'attache à conquérir le cœur du chevalier de Ripafrate. Et je ne donnerai pas un tel plaisir pour un bijou deux fois plus beau que celui-ci. Je vais essayer. Je ne sais pas si je serai aussi habile que ces deux braves actrices, mais j'essaierai. Le comte et le marquis, pendant qu'ils s'occupent de Déjanire et d'Hortense, me laisseront tranquille, et je pourrai m'occuper tout à mon aise du chevalier. Il n'est pas possible qu'il me résiste. Quel est l'homme qui peut résister à une femme s'il lui donne le temps de mettre en œuvre tous ses talents? Celui qui fuit n'a pas à craindre d'être vaincu, mais celui qui s'arrête, qui écoute et y prend plaisir, doit tôt ou tard succomber malgré lui.